6h sur Europe 1.
Qu'est-ce qu'il voit quand il se regarde dans une glace, ce garçon ? Moi, je n'y vois qu'un lâche. J'attends juste qu'on mette le mot « coupable » sur sa tête.
L'ouverture très attendue du procès de Jonathan Daval ce matin, accusé du meurtre de sa femme Alexia il y a 3 ans. Les parents de la victime attendent beaucoup de ce face-à-face. Autre procès, celui de l'attentat manqué à bord d'un Thalys en 2015, un acte évité de justesse grâce au courage de plusieurs passagers. Dans ce journal, alors que le nombre de chômeurs s'envole, il y a un secteur qui s'en sort plutôt bien, le BTP, notamment grâce au volet rénovation énergétique. Le débat relancé à propos du vote par correspondance en France. Et puis test antigénique au pied des pistes et masque obligatoire sur le télésiège. Les stations de sport d'hiver tentent de s'adapter alors que le début de la saison arrive à grands pas.
Et oui, y aura-t-il des skieurs à Noël ? On l'entend, les stations sont prêtes, mais seront-elles autorisées à ouvrir l'économie de la montagne dans l'angoisse avant les vacances scolaires de Noël ? Le ski auquel tant de Français sont attachés, on va en parler dans un quart d'heure avec mon invité inattendu, celui qui a réalisé le film emblématique et indémodable des vacances à la montagne. Et puis on retrouvera Fanny Agostini pour notre planète. Bon réveil.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est l'un des procès les plus attendus cette année qui s'ouvre aujourd'hui devant la cour d'assises de Haute-Saône, celui de Jonathan Daval, accusé du meurtre de son épouse Alexia dans la nuit du 27 au 28 octobre 2017. Il avait joué le veuf éploré lors de la marche blanche en hommage à la victime, avant de reconnaître les faits peu de temps après. Isabelle Fouillot est la maman d'Alexia. Ce matin, elle se dit prête à se retrouver face au meurtrier de sa fille.
Bien sûr que je vais le regarder. Je l'ai quand même connu pendant plus de 10 ans, hein, ce meurtrier. Donc oui, il ne me fait pas peur. Non. Qu'est-ce qu'il voit quand il se regarde dans une glace, ce garçon ? Moi, je n'y vois qu'un lâche. Est-ce que je vais croire un traître mot de ce qu'il va me dire ? Il a trop changé de version. Donc non, je crois que j'attends rien de lui là-dessus. Moi, ma grande question, c'est le pourquoi ? Pourquoi en arriver à tant d'horreur ? Elle a quand même reçu 15 coups de poing. Il ne reprend jamais ses esprits. La volonté de tuer, elle est là. 15 coups de poing. Un étranglement de 4 minutes. Il voulait vraiment en finir avec Alexia. C'est de la préméditation pour moi. Il voulait vraiment qu'elle meure. Moi, j'attends juste qu'on mette le mot « coupable » sur sa tête.
Isabelle Fouillot, la mère d'Alexia Daval, témoignage recueilli par Arthur Mbaché qui couvrira le procès pendant toute la semaine pour Europe 1.
Et à 6h40 sur Europe 1, l'éclairage de l'expert psychiatre, le docteur Daniel Zaguri, qui sera avec nous pour tenter de nous donner quelques clés pour essayer de mieux cerner la personnalité complexe de Jonathan Daval. Autre procès qui s'ouvre aujourd'hui, celui d'Ayoub El Kazani, qui avait failli commettre un attentat sanglant à bord d'un Thalys entre Amsterdam et Paris. C'était en août 2015.
Le massacre avait été évité grâce à l'intervention héroïque de plusieurs passagers, notamment 3 soldats américains, alors en vacances en Europe. El Kazani était un proche d'Abdelhamid Abaoud, le commanditaire des attentats du 13 novembre 2015. Accusé de tentative d'assassinat terroriste, il encourt la prison à vie. Son portrait avec Gladys Lafitte.
C'est l'un des rares terroristes à être encore en vie après son acte. Ayoub El Kazani, un Marocain de 31 ans aujourd'hui, fait aussi partie d'une cellule djihadiste désormais bien connue, rappelle Maître Thibault de Montbrial, avocat de passagers du Thalys.
Il faisait partie de ce qu'on appelle le commando Abaoud, qui avait plusieurs cibles au sein du territoire européen pendant l'année 2015-2016. C'est également le même commando qui a attaqué Paris le 13 novembre, puis Bruxelles en mars.
Alors les parties civiles ont l'espoir qu'il explique comment ces attentats meurtriers ont été planifiés depuis la Syrie. Mais Ayoub El Kazani a d'abord gardé le silence pendant 18 mois, puis il a expliqué qu'il ne voulait pas commettre une tuerie de masse, qu'Abdelhamid Abaoud, le coordinateur des attentats du 13 novembre, lui aurait demandé de viser seulement les 3 soldats américains à bord, alors en vacances et sans uniforme. Une version jugée peu crédible par les juges d'instruction. Selon eux, si un massacre a été évité, c'est grâce à l'intervention héroïque des passagers du Thalys et du mauvais fonctionnement des armes du terrorisme.
Gladys Lafitte, et en plus d'Ayoub El Kazani, 3 autres hommes vont comparaître pour l'avoir notamment aidé à rejoindre l'Europe par la route des migrants.
6h05 sur Europe 1, l'épidémie de Covid, la France aura bientôt franchi les 2 millions de cas depuis l'apparition de la maladie.
Pourtant, le nombre de nouvelles contaminations et le taux d'incidence sont en baisse, des signaux qui portent à croire que nous avons passé un pic épidémique, affirmait hier Olivier Véran, le ministre de la Santé, reconnaissant tout de même qu'il était encore trop tôt pour crier victoire et relâcher nos efforts.
Le coronavirus et l'économie, le nombre nombre de demandeurs d'emploi s'est envolé à 9% au troisième trimestre. Et pourtant, il y a des secteurs qui ne connaissent pas la crise.
Et parmi eux, le BTP, sa branche rénovation énergétique, fonctionne plutôt bien en ce deuxième confinement. Et les entreprises spécialisées arrivent même à recruter en ce moment. C'est ce qu'Élise Dangean a constaté chez EBS Isolation.
Comme on est un secteur avec une activité florissante, on a des besoins grandissants et donc, malgré le second confinement, on n'a pas arrêté de recruter.
Chauffagistes, techniciens, commerciaux, chez EBS Isolation, on a besoin de bras à tous les étages. En ce moment, une cinquantaine de postes sont à pourvoir au sein de l'entreprise. Car confinement ou pas, l'activité se poursuit. Elle a même été dopée par la crise, ou plutôt par la réponse du gouvernement à la crise, avec notamment la nouvelle version de MaPrimeRénov, une aubaine pour le patron Édouard Barthès.
Aujourd'hui, 100% des Français ont droit à une prise en charge s'ils entreprennent des travaux. Et ça, c'est un petit peu inédit. C'est vrai qu'on n'a jamais eu autant d'aide pour faire des travaux de rénovation énergétique. Donc, il y a une réelle incitation pour le particulier de passer à l'acte et d'entreprendre des travaux. Et ce qui fait que ça se traduit dans le carnet de commandes et dans les besoins qu'ont nos entreprises. Et c'est ce qui explique aussi que l'on recrute.
Car dans ce secteur, on ne manque pas de visibilité. L'entreprise prévoit donc de garder le cap l'an prochain et d'augmenter ses effectifs de 20 à 25%. Une seule ombre au tableau, la difficulté de recruter du personnel qualifié. L'enjeu maintenant, dit le patron, c'est la formation.
Élise Dangean. Dans le monde, les contaminations explosent. L'Organisation mondiale de la santé a enregistré un record absolu de nouveaux cas quotidiens, avec plus de 660 000 cas enregistrés samedi. Au Royaume-Uni, le Premier ministre Boris Johnson, sévèrement touché il y a plusieurs mois, s'est mis à l'isolement après avoir été en contact avec une personne infectée.
La politique, et si la France réhabilitait le vote par correspondance?
En tout cas, le débat est relancé. Et si certains y voient une solution contre l'abstention, en réalité, le sujet divise jusque dans la majorité, Jean-Rémy Baudot.
Oui, et c'est une idée défendue par François Bayrou et le Modem depuis plusieurs années. Une idée accueillie avec intérêt par une partie de La République En Marche, y compris par Christophe Castaner, le patron du groupe LREM. Mais pour faire avancer ce débat, l'ancien ministre de l'Intérieur va devoir contourner le nouveau. Gérald Darmanin se montre farouchement opposé au vote par correspondance. Une fausse bonne idée, a écrit hier le patron de Beauvau. Il met en avant le coût, la logistique compliquée et le risque de fraude, de manipulation, y compris communautaire. Le secret de l'isoloir, c'est une conquête, clame l'entourage du ministre. Une position qui fait grincer des dents. Il ne veut pas qu'il y ait de débat, regrette un macroniste historique. De son côté, l'Élysée temporise. Le président veut avant tout du consensus, explique l'un de ses proches. Dans le contexte actuel, pas question pour Emmanuel Macron de rentrer dans un débat sur lequel la majorité risque de se déchirer.
Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1.
Europe Matin, le 5-7, Sébastien Krebs.
6h10 sur Europe 1, la suite du journal Sophie Echen.
Nous sommes à la mi-novembre et d'habitude à cette période, les vallées se préparent à accueillir les premiers skieurs et les vacanciers de Noël. Sauf que les stations ne sont pas épargnées par la crise sanitaire, elles aussi sont confinées. La plupart sont censées ouvrir début décembre, mais pour l'instant, rien n'est garanti. Marguerite Lefebvre.
Yann n'a pas encore traversé la France. Il est toujours dans les Côtes d'Armor où il enseigne la voile l'été. Sa saison à Val d'Isère, sa combinaison rouge de moniteur de ski, tout cela est encore pour lui très hypothétique.
Pour l'instant, je suis en attente et puis je crois qu'il faut s'adapter au fur et à mesure des événements et on n'a pas tellement le choix. Maintenant, les demandes, il y en a très peu. Je vais un peu dans le mur.
Entre les moniteurs, les commerçants, les hôteliers, le secteur de la montagne emploie 120 000 personnes, suspendues aujourd'hui à l'autorisation du gouvernement. Jean-Luc Bock, le patron de France Montagne, appelle ses collègues à la patience.
Début décembre, ce serait prématuré. On ne peut pas ouvrir trop vite et prendre le risque de refermer. Il vaut mieux être prudent, patient, que faire n'importe quoi.
Car l'essentiel en station, c'est de sauver les vacances de Noël, qui, on le sait déjà, si elles ont lieu, se feront sans doute sans les touristes étrangers et avec les gestes barrières, des masques dans les remontées mécaniques et des stands de tests antigéniques dans chacune des 350 stations françaises.
Eh ben, ça promet. Marguerite Lefebvre.
Voilà, et les vacances au ski, très attendues et dont on ne sait pas si elles auront lieu, ce sera le sujet de mon invité inattendu que j'appelle juste après le journal des sports sur Europe 1. C'était Sophie Echen, il est 6h11.